おかしい、おかしい。
Dialogue entre Congolais avec Jean-Paul Toumba Kamanga.
Merci Tina Salama, bonsoir. Gestion des entreprises publiques, les agents de la SONAS et de l'ONASRA réclament le départ de leurs directeurs généraux adjoints après avoir obtenu le limogeage de leurs directeurs généraux. Qu'est-ce qui est à la base de cette crise dans ces deux entreprises publiques? Quel bilan dressé des mandataires recrutés et installés par le gouvernement dans le cadre de la réforme des entreprises publiques? C'est le sujet de ce débat et nous recevons comme invité Lems Kamonia, il est chargé de projet au comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille. Jean-Pierre Mouteba, secrétaire général de la Nouvelle Dynamique Syndicale et membre de l'intersyndicat de la RDC. Et Martin Mokonkole, il est fiscaliste, mais aussi député national de l'opposition, élu de Kabinda. Nous sommes au Kasaï Oriental et membre du groupe parlementaire ODR, Ordre des démocrates et républicains. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Lems Kamonia, Martin Mokonkole, Jean-Pierre Mouteba, ils sont tous bien en place. Et bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Gestion des entreprises publiques, les agents de la SONAS et de l'ONATRA réclament le départ de leurs directeurs généraux adjoints après avoir obtenu le limogeage de leurs directeurs généraux. Qu'est-ce qui est à la base de cette crise dans ces deux entreprises publiques? En tout cas, c'est la grogne à l'ONATRA et à la SONAS. Après avoir obtenu la tête des directeurs généraux de leur entreprise, travailleurs et syndicats de l'Office national de transport et de la Société nationale d'assurance, réclament le départ des directeurs généraux adjoints. Pour ces travailleurs, il y a eu mégestion. C'est la direction générale tout entière qui devrait en faire les frais. Pas le seul directeur général. Travailleurs et cadres n'hésitent pas de parler de millions de dollars américains qui se sont envolés par la faute de leurs dirigeants. Paul Kaboba s'est entretenu avec les cadres et syndicalistes de ces entreprises.
Pour ce cadre qui a 15 ans de métier à la SONAS, il faut prendre la direction au mot. Cette direction avait annoncé, selon les circonstances, avoir réalisé entre 10 et 50 millions de dollars américains de recettes. Or, ce montant n'est pas visible dans la comptabilité. Les travailleurs souhaitent que la direction s'explique sur la destination de cet argent. Les agents reprochent aussi à la direction d'avoir embauché à tour de bras jusqu'à des postes de décision. Selon eux, la gestion s'allait trouver déstabilisée. Autre grief, c'est le don en nature et en argent pour des objectifs qui n'ont rien à voir avec la raison sociale de la SONAS. À l'ONATRA, les agents aimeraient bien savoir où sont partis les 10 millions de dollars américains que le gouvernement avait mis à la disposition de la direction générale lors de son entrée en fonction. Selon les travailleurs, cet argent devait notamment servir à l'achat de pièces de réchange. Les agents déclarent qu'à ce jour, l'ONATRA n'a même pas acquis un tournevis. Dans cette entreprise aussi, on demande le départ du directeur général adjoint qui, d'après eux, à gérer solidairement avec son titulaire.
Voilà, merci Paul Kaboba. Nous commençons d'abord par vous, Lems Kamonia. Un mot d'abord sur ce qui se passe au niveau de la SONAS et l'ONATRA.
Moi, je dirais d'entrée de jeu que la situation qui se passe à l'ONATRA, elle est fondamentalement différente de la situation qui se passe à la SONAS. Pour deux raisons. La première raison, c'est que au niveau de l'ONATRA, c'est une entreprise dans laquelle a été initiée ce que nous appelons les missions de stabilisation des activités. C'est-à-dire, les managers qui sont là, ce ne sont pas tous des Congolais, c'est des Congolais associés à l'expertise internationale, et dans les cas présents, c'est Proboza. Alors, il y a une partie des membres du comité de gestion ou du conseil d'administration pourvus par la firme Proboza. C'est là-dedans que nous trouvons la DGA, qui a été la DG Peking Ponson, pour qui la Chine a accepté qu'il soit remplacé. Et nous avons aussi des Congolais qui ont été recrutés sur concours, principalement la DGA et la Direction des Affaires Financières. Donc, au niveau de l'ONATRA, cette situation que nous avons à l'ONATRA n'est pas la même situation qu'à la SONAS, où tous les comités, l'ancien comité de gestion était composé par des cadres congolais. Et deuxièmement, au niveau de l'ONATRA, ce n'est pas comme à la SONAS. À la SONAS, on dit qu'il y a une grève. À la base, les non-paiements de salaire à l'ONATRA, c'est les sages, ils n'ont pas de retard de paiement dans les salaires. Donc, les cahiers de charges présentés au niveau de l'ONATRA et de la SONAS, les cahiers de charges des syndicalistes sont fondamentalement différents. Et je pense qu'il faudrait qu'on passe en revue ces cahiers de charges pour voir si ces revendications sont réellement fondées.
Voilà, c'est différent, mais au moins, ce qui est commun aux deux, c'est au moins des mandataires qui ont été mis après sélection et recrutement.
par le gouvernement.
Et vous, mais comment
vous effectivement, tous ces mandataires qui sont là, ils sont passés au test.
Voilà. Commentaire. On prend d'abord un syndicaliste, on va revenir à vous, hein, Martin, mon concolais. On prend d'abord Jean-Pierre Moutéba. Bonsoir, vous êtes déjà en ligne.
Bonsoir, je suis en ligne, effectivement.
Voilà, votre appréciation de cette crise.
Par rapport à l'analyse que nous pouvons faire de ces recrutements-là, nous pensons que les recrutements étaient plutôt de la farine, de la poudre qu'on a jetée à la figure du peuple congolais. On a effectivement lancé les thèmes de référence, des dames de journaux avec large publicité, mais en réalité, les gens qui étaient sur la liste qui ont présenté et qui se sont passés à l'interview n'ont pas été nécessairement retenus, mais plutôt des recrutements se fait sur base de l'appartenance à un parti politique, à une famille politique plutôt. C'est ce que nous avons constaté parce que nous avons beaucoup d'amis, beaucoup de nos connaissances qui étaient parmi ceux qui avaient présenté, pour lesquels les résultats ont montré qu'ils étaient placés parmi les deux, trois premiers, mais qui n'ont pas été malheureusement retenus. Donc, le recrutement, disons-le, et n'ayons pas peur de le dire, nous devons dire que ce recrutement-là a complètement échoué, parce que dans l'ensemble des entreprises, que ce soit à la SNCC, à la GECAMI, à l'ONATRA aujourd'hui, et à la on a constaté que les gens recrutés n'ont pas répondu, n'est-ce pas, aux attentes du gouvernement de pouvoir aujourd'hui mieux gérer par rapport aux défis et pouvoir relever les défis importants et relancer, n'est-ce pas, ces entreprises-là qui étaient déjà en difficulté.
Oui.
Donc, de manière générale, c'était vraiment un échec.
Ouais. Donc, puisque vous allez directement à ce bilan, hein, bilan de ces mandataires, donc si on vous comprend, Jean-Pierre Moutéba, pour vous, ce qui se vit à l'ONATRA et à la SONAS, c'est juste ici. Hein, donc, c'est lié à ce recrutement.
Tout à fait. Ce qui se vit à la SONAS, à l'ONATRA aujourd'hui, à la GECAMI, à la SNCC, c'est malheureusement le résultat de ce recrutement. Il n'en était pas un.
Merci.
Donc, un recrutement répond à un certain nombre de critères objectifs.
Ça
n'a pas été le cas. D'ailleurs, M. Kamania qui est là aujourd'hui, le copilote lui-même qui a commencé et qui aujourd'hui a fait autant d'années, doit être évalué pour savoir qu'est-ce que copilote a fait, quel est le résultat de l'activité de copilote pour pouvoir tout simplement les dissoudre parce qu'il n'a pas, n'est-ce pas, atteint les résultats attendu par le gouvernement et le peuple congolais tout entier.
Merci Jean-Pierre Moutéba, j'ai vu l'homme Scamania sourire, je crois que c'est pour dire qu'il a compris votre question, il va y répondre, mais il est temps de donner la parole à Martin Moukongolais, votre lecture hein, de fiscaliste et député national hein, de l'opposition.
Non, je crois que la situation que nous vivons aujourd'hui à la SONAS et à l'ONATRA est en train de nous donner nos raisons. Nous avions dit que le gouvernement n'avait pas une vision de la gestion des intérêts publics de l'État. Et nous avions dit que le fait d'avoir confié cette mission au COPIREP, qui était une institution qui avait fonctionné sans tous les organes prévus par les textes à son temps-là, et on avait déjà dit qu'on va accoucher d'une souris. Donc, c'est la justification de la gestion au niveau de l'ONATRA, tout comme au niveau de la SONAS qui nous amène à cette grogne, qui nous amène à cette crise que nous constatons. Et là, nous n'avons pas à hésiter. Et ce sont des travailleurs eux-mêmes qui ont constaté que les dirigeants, qu'ils soient venus par un faux concours ou un soi-disant concours, parce que c'était déjà connu, on sait que c'était des choses qui étaient boutiquées au niveau de cette famille politique, ils se sont partagés des entreprises en disant là, on va envoyer tel de tel parti politique, c'était connu. Et aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Nous avions dit à son temps-là que les concours, à condition que ce soit un concours qui devrait être fait dans la transparence. Mais parce que les amis de la majorité étaient en difficulté, après qu'ils avaient composé, qu'ils avaient mis en place leur gouvernement, ils avaient encore beaucoup de non-satisfaits, il fallait chercher à les écarter en faisant semblant d'organiser un concours pour arriver à se débarrasser de certains aigris qui étaient à leur niveau. Et aujourd'hui, on avait confié des responsabilités à des gens qui ne connaissaient pas des entreprises, qui n'avaient pas le souci de redresser les entreprises. Et voilà les résultats. Donc nous disons que d'une façon générale, il faut que nous prenions tous aujourd'hui et à cette date acte de l'échec de la politique mise en place par le gouvernement au niveau de la gestion des intérêts publics de l'État. Et surtout, que nous acceptons que Copilet a été le mauvais conseiller du gouvernement en cette matière et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est vraiment le manque d'une certaine vision réaliste de la part de Copilet en assistant le gouvernement lui qui était considéré comme étant le conseiller du gouvernement, et il n'a pas pris conseil du gouvernement dans l'esprit de l'intérêt du peuple congolais ou de la nation.
Voilà. Alors, le COFIREP, comment vous répondez, Mme Scamagna, vous qui êtes chargé de projet, justement, au comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille?
Merci beaucoup. J'aimerais essayer de préciser rapidement les choses. Premièrement, la mission du COFIREP, c'est une mission de pouvoir réformer les entreprises publiques, de restructurer, de rendre viables et capables de rendre des services de meilleure qualité à la population, et pour celles qui évoluent dans la sphère marchande, de pouvoir contribuer au trésor public. L'organisation du test, ce n'est pas partie du copyright. C'est le gouvernement actuel qui voulait faire une mise en place, et qui s'est dit, évitons de faire les mises en place comme ça s'est fait à l'accoutumée, où vous placez les gens sans savoir leur cursus, il faut organiser les tests. Ça a été une décision du gouvernement.
Mais est-ce que le gouvernement n'est pas testé par le copyright?
Le copyright n'a pas été consulté lorsque cette décision a été prise au niveau du Conseil des ministres, mais on a plutôt demandé au copyright de pouvoir exécuter cette décision. Et deuxièmement, je m'inscris en faux pour dire que ceux qui ont été placés dans ces entreprises, ce sont des gens qui n'ont pas participé au test. Ça, c'est faux et archi faux. Je crois que les gens font une confusion. Les tests n'avaient pas concerné tous les membres du comité de gestion, des comités de gestion ou même des conseils d'administration. Sur les 8 postes, il n'y avait que 3 postes considérés comme opérationnels qui avaient été ouverts au test. Et c'est les postes d'administrateur directeur général, d'administrateur directeur technique et d'administrateur directeur financier. Et je crois, juste après cette mise en place, après ce test, toutes les personnes qui avaient réussi au test, ces personnes-là ont pu occuper leur poste. On a organisé une émission. Le test était transparent, on est passé par toutes les phases, et je crois qu'il y avait une émission qui avait été organisée une semaine après cette mise en place. Il y avait les députés de l'opposition de Simboussa qui étaient là. Ils avaient des difficultés pour trouver, pour ces 3% de cette entreprise, quelle était cette personne qui avait été nommée à un poste alors que la personne n'avait pas participé au test. Ça, c'est une chose. Personne n'a été en mesure, ni dans la presse, de publier des noms de personnes qui n'avaient pas participé à ce test-là, être nommées. Deuxièmement, moi, je n'ai vu personne. Aussi bien, je n'ai même pas parlé de considérations politiques pour contester les qualités ou les profils des personnes qui avaient été nommées pour dire qu'ils avaient des profils fantaisistes. Donc on ne peut pas aujourd'hui, une année après, dire que non, les personnes qui avaient été désignées n'ont pas été capables. Troisièmement, maintenant, parce qu'on parle du copyright, oui. Je crois que notre mission, c'est de restructurer les entreprises publiques. Vous savez, avant de pouvoir les réformer, nous, on n'est pas là pour gérer les entreprises publiques, on est en train de les réformer. Et la réforme avait des préalables. Entre autres, comme préalable, il fallait d'abord changer le cadre légal. Et vous savez, c'est l'année passée, en juillet 2008, soit 5 mois après avoir organisé les tests et mis en place un nouveau mandataire.
C'est le cadre légal.
Et le cadre légal a été promulgué par le chef de l'État après qu'il soit voté par les deux chambres. Donc au niveau du Parlement, comme l'a dit l'honorable Mkonkolo, on ne peut pas demander au copyright de former tant qu'il n'y a pas de cadre légal. Ensuite, vous savez, il y a 4 mois que les décrets d'application de cette loi, ces décrets ont été publié par le Premier ministre depuis le 24 avril 2008. Donc c'est maintenant, à ce moment-là, 2009, j'allais dire, c'est à ce moment-là maintenant qu'il faut commencer à juger les corps pour dire tu as tous les atouts, tu as tous les instruments juridiques qui te permettent de réformer, quel est le bilan qui peut être fait. On ne peut pas demander au copyright aujourd'hui de réformer tant qu'il n'y a pas les décors, il n'y a pas un cadre légal. Ils seront les premiers à pouvoir crier que la réforme est illégale, la réforme sera contestée par tous les moyens. Je pense qu'ils prennent leur mal en patience. Si vous voulez évaluer le copyright, on est là. Il y a des stratégies qui ont été faites pour chaque entreprise. Et nous pouvons discuter. Et la réforme, ce n'est pas du cas instantané, c'est tout un processus.
Voilà. On va revenir parce qu'on a... Oui, je vois Martin Mkokolé qui veut rebondir. Allez-y.
Oui, mais je souhaite que notre ami, mon voisin de droite, qui il fait partie de quel copyright? Le copyright qui est le service public, qui est sorti au même 24 avril avec le décret du Premier ministre, où il fait partie de quel copyright? Si c'est l'ancien, on doit évaluer cet ancien copyright. Il ne faut pas qu'on essaie d'éviter la question ici. On doit évaluer le copyright qui avait reçu de l'argent, nous connaissons, nous avons la somme, qui avait reçu l'argent auprès de la Banque mondiale pour cette opération de pouvoir assister les entreprises publiques. Il faut qu'on nous explique tout ça, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais s'il veut parler de cet ancien copyright qui a été, il y a un décret qui a été pris, une ordonnance qui a été prise par le chef de l'État, de quel copyright vous voulez parler? Si c'est nouveau ici qui a été transformé en service public, là nous ne pouvons pas l'évaluer parce qu'il venait d'être mis en place. Mais l'ancien, il doit être évalué. D'aider, monsieur le journaliste. Mmh. Il a parlé ici des gens, moi je peux vous citer les gens. Mmh. Quand vous dites qu'il y avait 3 postes, un ADG, un ADT et un ADF. Mmh. Mais quelqu'un qui a passé les concours comme ADG,
vous le placez dans une entreprise comme ADP. Il n'a fait quel type de texte. Il ne faut pas venir nous
dire que
nous en avons des cas comme ça.
Les gens qu'on peut voir, des cas qu'on peut comprendre.
J'ai des cas. Si on vous voit, il n'est pas au hasard, il connaît.
Qui est dans les autres.
Je ne vais pas citer, c'est un ami. Je ne vais pas lui créer des problèmes. Il a passé les tests en tant qu'ADG, mais il a été affecté comme ADT dans une entreprise de la place. Il y en a des cas comme ça, nous en avons pris des cas. Ces messieurs-là qui ont
été. Vous pouvez aider le copyright pour
qu'il y ait un directeur ADT qui a passé les tests en tant qu'ADGA. Vous l'affectez ADT.
Il n'y a pas de poste ADGA. Il n'y a pas de poste ADGA.
J'ai dit ADG. J'ai dit ADG. Il était candidat ADG et il a passé les tests, mais il a été affecté lors de votre mise en place comme ADT.
Donc, la mise en place a été faite par
les dans un caractère général.
Voilà.
Donc, les tests, on vous affecte n'importe où.
Ouais.
Donc, nous en connaissons beaucoup de cas comme ça.
Voilà. Bon, vous allez peut-être après l'émission, au moins, vous allez pouvoir donner ces noms au copyright avec Hélène Chamonix. Il pourra peut-être vérifier cela. Jean-Pierre Moutéba, oui, vous allez vous reprendre la parole, Hélène Chamonix. Jean-Pierre Moutéba.
En fait, je veux dire que je veux bien que aujourd'hui qu'on dise qu'on va évaluer copyright après, mais copyright après notamment le mandat, la restructuration des entreprises du portefeuille, dont la GECAMIN. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire, ce qui est devenu la GECAMIN aujourd'hui, c'est notamment les résultats du travail de copyright. Aujourd'hui, la GECAMIN, c'est qu'elle est. Aujourd'hui, la GECAMIN qui appartient au peuple congolais, on ne sait pas ce que la GECAMIN va devenir. En 2002, la GECAMIN avait des possibilités de pouvoir redémarrer et beaucoup d'opportunités que nous avons ratées à cause des copyrights.
Aujourd'hui,
nous devons être francs avec nous-mêmes. C'est pas en changeant le texte, les copyrights deviendraient beaucoup plus efficaces et qu'on va l'évaluer demain. Nous connaissons que copyrights a fait commencer, les mêmes personnes sont là, les mêmes personnes, c'est pas en changeant le texte que les copyrights deviendraient beaucoup plus efficaces. Nous devons arriver à avoir le courage d'évaluer ce que le copyright a fait. Copyright, c'était la mascarade, c'était vraiment, bon, enfin, je ne veux pas ici utiliser des gros mots, mais je crois que copyright, si nous devions être confiants, nous devions être sérieux, nous devions dissoudre cette affaire-là pour que nous puissions regarder autrement comment nous allons gérer parce que c'est vraiment un échec.
Voilà.
J'ai quand même un exemple qui doit nous interpeller et nous interpeller tous. Et non pas se réfugier derrière un texte, parce qu'on a changé de texte. Changer de texte, ça ne changera rien du tout. Nous sommes aujourd'hui devant un échec et nous devons reconnaître et nous remettre en cause et redémarrer autrement sans copyright. C'est ça, je crois, c'est mon avis. Et d'ailleurs, l'honorable vient de le dire, nous avons aussi une liste des gens qui ont passé des tests. Nous avons une liste des gens qui avaient répondu aux critères. Nous avons des listes des gens qui, l'honorable, vous demandez à l'honorable de déposer. Nous allons aussi déposer, parce que c'est peut-être pas de citer les noms à la radio ici.
Oui,
allons déposer les noms des gens qui ont réussi, qui étaient bien positionnés, deuxième ou troisième, selon le cas ADG et tout ça, qui n'ont pas été arrêtés. Non, mais soyons sérieux.
Comment ça se passe dans notre pays. Oui, un mot, parce que j'ai une question
que vous posez. Je voulais juste rappeler au souvenir de M. Jean-Pierre Moutéba. Avant que les copyrights n'interviennent à la GECAMIN, il avait 36 mois d'arriéré. Et depuis que les copyrights a commencé son programme de stabilisation à la GECAMIN, M. Moutéba n'a pas d'arriéré. M. Moutéba continue à recevoir régulièrement la farine. M. Moutéba a droit aux soins de santé qui n'existaient pas. C'est grâce aux copyrights qu'aujourd'hui, Kambova a été réhabilité, qu'aujourd'hui, les partenariats sont en train d'être revus grâce au travail qui a été fait. Si aujourd'hui, il dit qu'ils n'ont pas vu ce que les copyrights passaient, je crois peut-être qu'il s'est perdu dans les souvenirs. Qu'il se rappelle ces souvenirs, qu'il se dise pourquoi à Lubumbashi, les gens de la GECAMIN ont pu marcher et demander qu'on puisse pas changer M. Forla. Ce n'est pas M. Moutéba ou les autres qui l'ont amené. Je crois que s'il se rappelle ce souvenir-là, il pourra faire la différence entre la GECAMIN avant l'intervention du copyright et la GECAMIN au moment où le copyright est intervenu. Juste un rappel à son souvenir.
Tout à fait. Nous sommes allés un peu vite en besogne. Nous parlons de toutes les entreprises. Revenons d'abord pour peut-être boucler cette première partie, hein, le cas précis de la SONAS et l'ONATRA. Aujourd'hui, l'homme comme manière, qui dirige la SONAS et l'ONATRA aujourd'hui?
Qui dirige la SONAS et l'ONATRA? Je crois au niveau de l'ONATRA, la Soum Pogoza qui avait proposé M. Pekin Ponson a demandé, a décidé d'arrêter ses prestations et de pourvoir à son remplacement. Je crois que son remplaçant va intervenir avant la fin de ces mois.
Est-ce que c'est la même firme qui propose le remplaçant?
Oui, c'est la même firme qui propose le remplaçant.
Est-ce que ça ne va pas déranger les syndicalistes?
Mais non, ça,
pourquoi les travailleurs
je crois qu'à l'ONATRA, il y a un contrat de stabilisation qui a été signé par les gouvernements. Si nous sommes un pays qui se veut être un état de droit, nous devons être respectueux de nos engagements. Et jusqu'à ce jour, les contrats qui lient les gouvernements à la firme franco-espagnole Progoza n'a pas été rompu. Et l'ADG qui est parti, c'est sa firme qui a dit, comme il y a la grogne, on accepte de pouvoir retirer cet expert et proposer un homme qui doit prendre pendant son absence, c'est le DGA qui doit assurer les affaires.
Et
au niveau de la SONAT, oui. L'ADG a été suspendu. Pendant qu'il a été suspendu, c'est l'ADG qui doit continuer à assurer les affaires.
Mais là, justement, il y a les travailleurs qui veulent le départ aussi.
Là, les travailleurs qui veulent le départ de l'ADG, c'est un problème qui doit être résolu au niveau du gouvernement.
Vous êtes d'accord,
je voulais préciser d'abord une idée. Quand M. Lems a parlé à l'introduction, il a cherché à nous faire voir que la situation de l'ONATRA est différente par rapport à la situation de la SONAS. Moi, je crois qu'il faut que nous soyons les plus sincères et respectueux des procédures à notre niveau. Les mandataires, tous de l'ONATRA, sont nommés par le chef de l'État. À la SONAS, la même chose. Mais ici, il faut que nous posons la véritable question. Pourquoi on a retiré la conscience à Claude Péquin? Pourquoi on a suspendu l'ADG de la SONAS? C'est parce qu'il y a grogne. Pourquoi? Parce qu'il y a mauvaise gestion. Et au jour d'aujourd'hui, il faut que nous soyons les plus respectueux des textes. Et je ne souhaite pas que nous arrivions à rompre les contrats avec Progoza dans la précipitation. Nous pouvons nous saisir maintenant de la situation. Vous vous rappelez que le Premier ministre a écrit au ministre des Portefeuilles en demandant qu'on puisse évaluer les contrats de stabilisation qui a été à la base de la déstabilisation de l'ONATRA. J'ai dit ces contrats au lieu qu'il puisse.
Le Premier ministre n'a jamais utilisé ce terme. La
mission
concrète,
moi,
honorable, il ne faut pas déformer le propos du Premier ministre.
Le Premier ministre a demandé qu'on évalue les contrats Progoza. Il a demandé qu'il y ait même l'audit. Il a demandé qu'on arrive à évaluer à mi-chemin l'exécution de ces contrats-là. Moi, j'ai dit que les contrats que vous, copiez, que vous aviez conseillé le gouvernement pour dire que c'est un contrat de stabilisation, moi, je le considère comme un contrat de déstabilisation de l'ONATRA.
Je l'ai dit,
ça m'engage, j'allais de près. Je peux vous prouver comment c'est un contrat de déstabilisation de l'ONATRA. Donc, maintenant là que...
Donc, pour vous, il faut rompre carrément.
Non, mais je vous donne même des voies de sortie pour qu'on arrive à rompre, afin qu'on existe des poursuites judiciaires. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement estime que nous pouvons évaluer ces contrats-là. Et c'est de l'avis aussi de tous les travailleurs, parce qu'on n'a pas vu l'apport positif, ni au niveau de la technicité, ni au niveau du changement du matériel ou de n'importe quel autre. On estime qu'il faut qu'on évalue. Mais pourquoi vous hésitez, vous ne voulez pas qu'on puisse évaluer à mi-chemin? C'est en évaluant qu'on va constater.
On va pas vous laisser le débat à deux, parce que on est à trois conclués.
Quand moi j'ai la lettre du Premier ministre adressée à la ministre des Portefeuilles, j'ai la réponse de la ministre des Portefeuilles adressée au Premier ministre. Six points. La lettre du Premier ministre était évoquée avec six points par rapport à la situation de l'ONATRA. Et la ministre a répondu aussi en reprenant les six points. Vous constatez qu'il y a un dysfonctionnement total, parce qu'il y a la ministre qui dit à son Premier ministre que cette question ne peut être traitée que si elle est inscrite au niveau du Conseil du gouvernement. Quand la lettre du Premier ministre, ce sont des instructions qu'on donne pour suspendre Bataoula.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je donne ce qui entretient la mauvaise gestion des entreprises publiques de l'État. Quand vous constatez que le Premier ministre qui donne les orientations par rapport à la situation qui a régné dans une entreprise, qui demande qu'on puisse suspendre telle, parce qu'on a retiré la confiance à M. Pékin, on doit suspendre la DGA, parce que nous sommes maintenant, avec la transformation, nous sommes dans un processus d'une direction générale, parce que cette direction générale a toujours été solidaire dans les textes qu'on pose, il faut qu'on suspende Bataoula, et il y a Mme la ministre qui refuse aux ordres de son Premier ministre. Voilà les dysfonctionnements. Nous allons au niveau de la SONAS. C'est la même chose. Je ne vois pas pourquoi on peut suspendre l'ADG, on laisse Madame là déjà en train de continuer à travailler. Ils ont été tous solidaires dans leur gestion.
Vous êtes d'accord que en fait, vous donnez raison aux travailleurs. Hein?
Mais ce sont que ces messieurs-là qui ont la technicité, qui connaissent l'importance de la maison, qui tirent les premières dividendes de ces différentes sociétés. Si on ne veut pas tenir compte de ça, à moins qu'on soit dans la logique des commissionnaires, qu'on soit dans la logique de ceux qui n'aiment pas ces entreprises.
Voilà, on va boucler là vraiment avec Jean-Pierre Moukeba. Donc, d'accord, comme le dit Martin Moukonkolé, il faut que les ADGA, notamment pour le cas de la SONAS et l'ONATRA, puissent aussi partir comme leur titulaire.
En fait, je veux rebondir sur notamment la dernière réponse de M. Kamanga. En fait, il faut comprendre, parce que vous dites que les travailleurs demandent le départ, les travailleurs ne demandent pas le départ, mais les travailleurs sont manipulés, on le sait, par des directeurs qui cherchent des postes dans la gestion des entreprises. Les travailleurs sont manipulés par les syndicats qui sont corrompus, qui n'attendent que des jetons de présence. Je suis syndicaliste, j'étais à la Gétamine, je ne suis plus à la Gétamine, enfin, je dis à Kamanga que je ne suis pas à la Gétamine, mais les travailleurs sont manipulés. Dans le cas de l'ONACRA, nous savons très bien que les nouveaux comités de gestion ont plus ou moins stabilisé, ont commencé à payer et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement parce que ce comité de gestion n'a pas rencontré les attentes de la délégation syndicale sortante. Parce que vous le savez, au mois de mars, l'ONACRA a organisé des élections. Les syndicats, dont la NDS, qui sont entrés, ne se sont jamais réunis avec l'employeur, non pas par la faute de l'employeur, parce que les syndicats qui sont dans l'entreprise, corrompus, corruptibles, manipulés par des directeurs, refuse que les syndicats qui sont entrés depuis le mois de mars, ça fait 5 mois aujourd'hui, et malheureusement, et c'est le cas de la Zona, c'est le cas de la GETAMI, c'est le cas de la SNCC, toutes les entreprises du contenu. Les travailleurs sont devenus finalement des outils utilisés par des syndicalistes, par des directeurs, pour pouvoir atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire de recevoir les dividendes auprès des comités de gestion. Aujourd'hui, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, tous ceux qui aujourd'hui parlent au nom des travailleurs sont des directeurs, soit dans les entreprises, soit dans d'autres entreprises du portefeuille, alors que l'arrêté est sur la table du ministre du portefeuille pour signer de manière à ce que les délégués syndicaux ou les permanents syndicaux ne soient pas en même temps travailleurs dans une ou l'autre entreprise. Cet arrêté n'est toujours pas signé, donc il y a des problèmes sérieux. Que vous ne pouvez pas réformer les entreprises avec toutes ces anomalies, avec tout ce qui se passe, avec les syndicats aussi faibles et corrompus, avec des délégués syndicaux qui ne travaillent pas pour l'intérêt des travailleurs, mais qui travaillent pour leurs propres intérêts. Nous avons des problèmes sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire ni si Fortin n'est pas parti, les syndicats ont marché, si Kéroa est parti, c'est parce que Kéroa était mauvais. Ce n'est peut-être pas ça le problème. Le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, peut-être que ce sont des entités sans maître. On a les faits comme ça. On a des directeurs qui ne veulent pas sortir des entreprises alors qu'ils ont atteint l'âge de la retraite. Oui, tout ça. Des gens qui ont pris les entreprises dans nos
âges.
Bon, c'est pas le problème. Clairement, au lieu de se cacher derrière les arguments d'efficacité, alors que l'efficacité devrait être que les entreprises se relèvent, que les entreprises commencent à travailler, et c'est ça le grand problème que nous avons.
Au lieu
de voir le problème, et diagnostiquer le problème, la situation, et de trouver des solutions adéquates. Derrière des trucs, des arguments qui ne tiennent pas debout.
Ouais, Jean-Pierre Moutéva, là, j'avais peur qu'on ne soit plus en mesure de vous arrêter. Je sens que votre syndicat, lui, il n'est pas corrompu, hein, comme les autres, comme vous les qualifiez. Ça vous fait rire.
Oui, donc nous sommes membres de l'État syndical national. Il y a des choses qui se passent. Les intérêts des travailleurs sont pris en compte. C'est des intérêts des individus qui sont là, et malheureusement des directeurs et autres, et malheureusement des syndicalistes qui sont aujourd'hui des directeurs dans les entreprises.
Vous l'avez déjà dit, on vous a déjà suivi. Même comment vous allez répondre, donnez-nous l'occasion juste de lire le premier lot de réaction des auditeurs. Peter Kumuna nous écrit de Béni au Nord Kivu. Il pense que le recrutement de ses mandataires n'a pas été objectif. Il affirme n'avoir vu aucun mandataire sans appartenance politique. Pour lui, seuls les pauvres citoyens paient le prix aux dépens des riches. Somi Mboula Zoubeir de Bumia, province orientale, estime qu'on peut chasser ces dirigeants, mais ceux qui vont les succéder vont-ils être aussi intègres que ces derniers, parce que les Congolais veulent toujours se remplir les poches. La mauvaise gestion n'est pas seulement dénoncée dans ces entreprises, c'est nous, à la SNCC, c'est pire. Nous ne savons rien faire avec la dernière grève. Réaction signée Eva de Kananga. Bilan de ces mandataires, ce bilan est négatif pour les travailleurs, mais positif pour le gouvernement qui les a placés à ces fauteuils. C'est ce que pense Edo de Lubumbashi. On va poursuivre, mais d'abord avec vous, Lems Kamanya. Il y a Thomas. Thomas pense que ces départs exigés des ADG et ADGA, nouvellement nommés, relancent les débats sur la suite au rapport Bakandeja portant audit des entreprises publiques. Vous réagissez et puis on passe à la deuxième partie.
Oui, totalement. Je pense qu'il n'a pas tort. Aujourd'hui,
on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a mis des ADG qu'on doit les laisser mettre faire ce qu'ils veulent. Je crois qu'on devrait activer l'ensemble des mécanismes d'inspection et de contrôle pour voir si quelqu'un peut avoir un bon profil, peut être d'un bon calibre, mais moralement, il n'est pas celui-là. Il peut être quelqu'un qui cherche à soutirer l'argent, mais il faudrait que toutes les institutions prévues pour faire les contrôles, aussi bien internes, l'audit interne, les commissaires aux comptes, la Cour générale des finances, se mettent pour régulièrement auditer ces entreprises et se rendre compte qu'il n'y a pas des actes de gestion. Je crois qu'auditer, mettre en place des mandataires ne signifie pas qu'on les fait totalement confiance, ils doivent être contrôlés. Si ce contrôle a fait défaut, c'est vrai qu'on peut aboutir à des déviations et nous, on ne peut pas être là pour défendre des gens qui ne sont pas intègres et qui détournent de l'argent. S'il est avéré qu'ils sont responsables de ces actes-là, ils doivent répondre de leurs actes. Je crois qu'on ne passe pas les gens à la tête pour qu'ils aillent détourner.
Voilà.
Mais par rapport à celui qui a posé la question de savoir si ça a été objectif, je crois qu'il faut quand même nuancer. Il y avait un débat important au niveau du gouvernement pour dire pourquoi doit-on passer au test. Et pour chacun des postes, il y a eu 3 noms qui ont été proposés pour laisser la latitude aux politiques de choisir parmi les 3 noms qu'ils mettraient là-bas. Effectivement, dans ces choix, c'est un pouvoir politique, ça fait partie du gouvernement. Les gouvernements, si sur les 3, ils trouvent qu'il y a la personne qui est de son obédience, le gouvernement était libre. Au moins, on a proposé pour chaque poste 3 personnes qui avaient les profils voulus pour arriver à être là. Si on a placé les gens...
Donc, quelque part, le gouvernement...
Il est libre de placer les gens à qui il a confiance. Qui peut servir ses intérêts. Et pour ça, on ne peut pas dire que le gouvernement a tort. Ça relève de sa décision discrétionnaire. Mais pour terminer, je crois que le plus important que j'ai retenu de l'intervention de M. Jean-Pierre Moutéba, c'est qu'aujourd'hui, la grande KIA, nous parlons des gestions, mais on ne regarde pas quels sont les critères sur base desquels nous pouvons apprécier un contrat. Si nous discutons de ces critères, c'est là qu'on verra que le cahier des charges qui est présenté, il est valable ou il ne l'est pas.
On va poursuivre, mais j'ai vu Martin Mkonkole, juste un mot, Martin.
Oui. Comme on évolue avec le moi, j'ai dit, j'ai des critères qui nous poussent à décrier ces contrats parce qu'il a été un contrat injuste et inhumain. Je prends l'exemple. J'ai parlé plus d'une fois, Claude Pékin, il touche pas moins de 38 000 € à la fin de chaque mois. Et quand il a un expert qui vient de l'Europe, ici chez nous, par jour, il a 2 000 € par jour. Et le pauvre Bassaoula, il a des difficultés pour atteindre 10 000 euros.
Ce sont des bons chiffres que vous avez.
Ce sont des chiffres consignés dans les contrats signés par copyright avec la maison Progosa. On dit même que ce soit l'ONATRA qui signe ces contrats, mais c'est Copilet qui va signer en lieu place de l'ONATRA, comme s'il avait eu mandat.
Ce
sont des preuves qui justifient qu'il y a une mauvaise gestion, il y a une mauvaise politique au niveau même de la politique salariale.
Ouais.
Comment ça fait motiver les gens? Comment ça fait encourager les gens?
Voilà, vous êtes encore en vacances parlementaires. Je pense que là, vous avez beaucoup de matière pour la prochaine rentrée parlementaire, Martin Mkonkole. On va poursuivre cette émission, gestion des entreprises publiques. Les agents de la SONAS et de l'ONATRA réclament le départ de leurs directeurs généraux adjoints après avoir obtenu le limogeage de leurs directeurs généraux. Quel bilan dressé des mandataires recrutés installés par le gouvernement dans le cadre de la réforme des entreprises publiques? Nous en parlons tout de suite.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081-890-66-78 ou encore par SMS au 081-05-15-778.
Quel bilan dressé des mandataires recrutés installés par le gouvernement dans le cadre de la réforme des entreprises publiques? Il y a 2 ans, le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille Copyright organisait sous la houlette du gouvernement le recrutement des mandataires dans 26 entreprises publiques. À l'issue de ce concours, plus de 1000 candidatures avaient alors été retenues sur plus de 6000 déposés. Parmi les critères de recrutement figuraient la bonne moralité, les qualités éprouvées de gestionnaire et une expertise avérée. Quel bilan alors dressé des mandataires recrutés et installés dans le cadre de cette réforme? Les détails avec vous, Alain Grand.
Les 2 directeurs généraux de la SONAS et celui de l'ONATRA font partie des mandataires, 100 environ recrutés, après sélection organisée par le gouvernement par le biais du copyright. Mais 2 ans après leur installation, ils sont tous écartés pour mégestion. Pour l'administrateur délégué général de la SONAS, Herman Bogno, le tout dernier à être limogé le 7 de ce mois, la ministre du portefeuille lui reproche dans cette mégestion, entre autres, le dysfonctionnement des organes statutaires de l'entreprise, des affectations et promotions du personnel, et la passation des marchés des travaux fournitures. Mais ils ne sont pas les seuls mandataires à avoir perdu leur fauteuil pour les mêmes raisons. L'ancien PAD de la NIBA figure aussi sur cette liste. Paul Kabongo Fuila a été suspendu de ses fonctions en avril 2009. La ministre du portefeuille, Janine Mabunda, lui a reproché l'octroi d'un salaire mensuel de $33,000. Une exception pour la SNCC en septembre 2008, son ancien administrateur directeur général, Patrick Lasse, revenait aux affaires après avoir déposé sa démission, une démission qui justifiait par, je cite, un contrôle médical qui l'avait contraint effectivement à ne pas pouvoir assumer logiquement la gestion quotidienne de l'entreprise. Patrick Lasse finira par partir. Au-delà de raisons de santé, certaines sources parlent de discordance avec le pouvoir dans la vision de gestion de cette entreprise.
Alors, Jean-Pierre Moukeba, donc finalement, si on fait le bilan de tous les mandataires au niveau de la plupart des entreprises publiques, est-ce qu'on peut dire que ce bilan, finalement, d'abord vous-même, vous le jugez comment ?
Non, le bilan est complètement négatif. Hein. Là, je crois qu'il n'y a pas à se cacher derrière. Le bilan est complètement négatif. Toutes les entreprises publiques passées une à une, nous pouvons aujourd'hui, même le cas que l'EMSA a parlé de la GECAMINE, quand bien même avant COPIREP, il y avait des arriérés de salaire et qu'après COPIREP, il n'y avait pas d'arriérés. L'année passée, la GECAMINE a fait plus de $380 millions. Au jour d'aujourd'hui, on peut se demander où sont passés les $380 millions. La SONAS, on a appris, c'est aussi plusieurs millions de dollars qui ont disparu. Le bilan est complètement négatif. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises, je prends le cas de l'INSS, je prends le cas de la SONAT et d'autres, même la LONATRA, les gens qui étaient là se sont précipités à recruter énormément du personnel, qui ont recruté 1500, qui ont recruté, sans tenir compte même de la charge du personnel, de la charge des salariés. Donc, il y a, au jour d'aujourd'hui, je crois, le gouvernement doit se mordre le doigt et le peuple congolais avec lui, que ces mandataires n'ont vraiment pas réussi à redresser la chose. Ils ont plutôt amené une fois de plus les entreprises dans une situation encore plus difficile qu'avant.
Oui. Mais Martin, mon congolais, lorsque le cas de l'ONATRA, où il n'y a plus d'arriéré de salaire, je pense, et du côté de la GECAMINE, où la farine, elle est régulière, je sais ce que ça veut dire, hein, l'importance qu'on y accorde pour avoir vécu là-bas. Alors, Martin Mkonkole, est-ce qu'on peut dire que tout est sombre dans cette réforme, dans le travail de ces mandataires?
Non, mais j'ai horreur de tromper. Ça me fait très mal quand on doit tromper devant un micro de Radio Capi. Mais je vous dis qu'à l'ONATRA, il y a des arriérés. Qui vous dit qu'il n'y a rien?
Il n'y a pas d'arriérés à l'ONATRA.
Oh là là, c'est malhonnête. Hein, par rapport à ce qui...
Bon,
moi, j'ai
retiré
ça, okay. J'ai dit que c'est pas
merci.
Bien.
Merci.
Je vous dis, à l'arrivée du comité Bassaoula, je suis en train de suivre le mouvement des différentes entreprises pas à pas. Et pourquoi il y a eu des arriérés? Les arriérés ont été appelés quand? Les arriérés sont arrivés parce qu'on avait refusé de payer les derniers mois qui étaient comme arriérés. On a décidé de payer les mois qu'on a travaillé. Mais c'était quand?
C'est faux, honorable, c'est faux. Il y avait 4 mois d'arriérés avant.
Vous avez la parole tout à l'heure. Notez, vous allez réagir. Allez-y, Martin, vous connaissez. Vous avez fini?
Non, je n'ai pas fini.
Bon, terminé.
Je ne suis pas habitué à mes chemins avec les...
Non, vous n'êtes pas là pour...
Non, c'est comme ça que j'ai
vous
dit.
Vous ne discutez pas, c'est un débat.
Tout à l'heure. Il y a eu 4 mois d'arriérés à l'ONATRA.
Ouais.
Et ces 4 mois d'arriérés ont été appuyés quand? Et à la sortie d'ici, nous allons sortir les quelques chiffres et les preuves. Et arriver à apprécier aujourd'hui qu'à l'ONATRA, il y a eu la bonne gestion.
Ouais.
En tout cas, je ne vais pas entrer dans les chiffres parce que j'en ai. Je connais ce qu'il y a comme chiffres réalisés et ce qu'il y a comme chiffres payés. Et ça, c'est dans ces cas-là que moi j'ai dit, il faut que nous soyons sincères.
Ouais.
Cette réforme
n'a pas
été mise en place,
ouais.
En tout cas à 90% n'a pas réussi. Il y a les quelques cas exceptionnels, certains mandataires qui se sont quand même bien distingués dans la façon de travailler là. Je ne vais pas faire la fidélité de ce soir,
okay.
Mais j'ai dit à 90%, il faut reconnaître que la réforme nous a amené un échec dans la gestion des entreprises publiques de l'État.
Moi je pense que nous sommes en train de mettre,
des longueurs d'onde différentes.
Okay.
Nous devons comprendre que le fait de placer à la tête des entreprises publiques des nouveaux mandataires ne signifie pas c'est ça la réforme. Non, la réforme c'est rentrer en profondeur. La réalité c'est que la quasi-totalité de nos entreprises publiques sont dans un piteux état. La plupart d'entre elles ont un outil de production qui est vétuste, insuffisant, obsolète, tout ce que vous voulez.
Donc, vous dites que
la plupart d'entreprises publiques n'ont pas de fonds de roulement. Mmh. C'est-à-dire, juste que là, ce qu'on est en train de faire, c'est éviter un peu d'éviter que ces entreprises arrivent à une situation de cessation d'activité avant qu'on passe à leur réforme en profondeur. C'est tout un processus réformé. Ce n'est pas seulement changer de personnes, sans outils de production, sans quoi que ce soit, et vous espérez que ces personnes-là peuvent relancer l'entreprise. Néanmoins, on s'est dit, on peut prendre des mesures pour restaurer un minimum de bonne gestion sur l'entreprise en attendant que des mesures précises de réforme leur soient appliquées.
Non, mais là, c'est ça que nous retrouvons.
Oui. Prenons aujourd'hui. Oui. Nous parlons de l'ONATRA. Nous parlons de la SONAS.
Oui.
On peut ajouter la MIBA. Ça fait 3 peut-être sur 30 entreprises publiques, soit 10. Ça fait combien? Si vous prenez 3 sur 30, ça fait un dixième, soit 10%.
Oui.
Donc, dans 10% des cas, il y a eu des problèmes, mais dans 90% des cas, il n'y a pas de problème. Les gens continuent à travailler et le service continue à être assuré.
Oui.
C'est maintenant que nous devons regarder ces entreprises-là en face, voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces entreprises redeviennent à leur dimension normale. Ce n'est pas le fait de mandataire qui correspond à la réforme.
Oui.
Je crois qu'on n'a pas encore réformé en profondeur.
Voilà. Donc, il reste encore des choses à faire pour parvenir
beaucoup
à
de choses à faire réforme. Et les décisions seront prises au cas par cas.
Oui.
On n'en est pas encore là.
Oui.
Avec le décor qui est planté de l'arsenal juridique, on va proposer des mesures, on va y aller au cas par cas.
Yes. Il y a Kazoum Chomba, Edouard Lambert de Kindo Manima, qui pense que finalement cette réforme, il se demande d'ailleurs si ces entreprises feront mieux après les réformes, car lui pense que ces réformes ruinent le trésor public. Rapidement, parce qu'on tend vers la fin de l'émission.
Mme Kamana, c'est à vous que je pose la question.
En quoi les réformes ruinent le trésor public?
Parce que la plupart d'entreprises étaient devenues un fardeau financier pour l'État propriétaire. Vous voyez l'État intervenir sans cesse. Les entreprises qui étaient censées contribuer au trésor public, aujourd'hui, elles commencent à être prises en charge par l'État. On a inversé la vapeur. Ce sont ces choses-là qu'on essaie de voir comment arriver à les corriger. Et c'est maintenant qu'on peut se permettre de discuter valablement pour l'avenir de chaque entreprise si effectivement, cette entreprise remplit les rôles pour lesquels elle a été créée.
Voilà. Je vais poser cette question, cette fois, c'est à vous, Jean-Pierre Mouteba. Elle vient de notre auditeur Malonga Koubali de Bandundouville. Je pense que la solution n'est pas seulement de faire partir les directeurs généraux, mais lui pense que les agents de ces 10 entreprises, notamment vous, vous devez arriver à créer un consensus pour aider ces mandataires à mieux gérer. C'est un peu bref, Jean-Pierre Mouteba, on comprend ça.
Je vais aller rapidement. C'est-à-dire que d'abord, dans notre syndicat, nous sommes toujours contre les grèves, les longues grèves qui paralysent malheureusement les entreprises, comme c'est le cas de l'ONATRA, de la SNCC il y a un temps, et tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire. Alors, pour ce qui est de la réforme des entreprises, nous pensons d'abord qu'il faut évaluer le patrimoine des entreprises, parce que le patrimoine n'a pas été évalué jusqu'à ce jour. Deuxièmement, il faut d'abord prendre les droits du personnel, les arriérés, tout ça, mettre ça dans cette évaluation pour dire, pour déterminer la valeur de ces combats, de ces combats à être transformés. Parce que si vous transformez les entreprises sans connaître la valeur, malheureusement, vous allez encore ouvrir les actions au privé. Lesquels privés vont être amenés par les députés tels que les députés Moukonkolé de l'opposition ou les députés de la majorité qui vont aller en Europe chercher des partenaires. Ils vont acheter des parts à un coût très moindre et malheureusement nous allons encore cibler la population.
Merci.
La réforme dont parle M. Kamal, ça sera comme la zaïrialisation.
Merci.
Ça sera comme les contrats.
Merci. Merci.
Et la réforme va encore aboutir à
ce
qu'on va privatiser ce qui est public et malheureusement c'est l'État congolais qui va perdre.
Merci beaucoup. C'est là aussi votre conclusion. On va terminer par Eric Pandé-Lekolizi au Katanga. Lui, il dit qu'il faut lutter contre les nominations selon les affinités politiques. Marcel Moukonkolé, en quelques secondes, vous pensez que c'est la solution?
Je crois que c'est parmi les solutions, dans toutes les entreprises, il y a une expertise. Il faut qu'on fasse confiance aux expertises, des expertises maison. Et ça serait une solution géniale pour nous permettre d'évaluer. Mais je crois, pour que la réforme puisse réussir, il faut qu'on fasse l'état des lieux. On ne peut pas, aujourd'hui, nommer de nouveaux mandataires, on ne peut pas, aujourd'hui,
sans les auditer,
sans savoir quelle est la valeur réelle de chacune des entreprises. On n'a jamais fait cet état des lieux, et c'est comme ça que nous nous retrouverons toujours devant des difficultés, au risque de brader une entreprise qu'on peut aujourd'hui considérer comme étant un canard boité, en réalité, elle n'est pas l'être.
Voilà.
Ce sont des choses qu'on doit chercher à évaluer, on doit tenir compte de ceux qui sont des utilisateurs premiers qui sont des travailleurs,
voilà,
et qu'on fasse vraiment les travailler.
Laissons les dernières secondes, Alain, M. Camonia, pour
vous. Oui, moi je dis bien que la réforme des entreprises publiques, c'est tout un processus qui prend du temps. Ce n'est pas du parfum instantané.
Voilà. Est-ce qu'on peut éviter aussi certaines interférences politiques, comme on le dit, hein?
C'est pourquoi les entreprises ont été confrontées au commercial où on donne plein pouvoir à ceux qui gèrent, quoi, aux ministres.
Voilà. Eric Fugatal a été la mise en onde, réalisation de Guy Maté, assisté d'Alain Irung et Samuel Kachak, coordination de Ben Kabamba. Vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Jean-Claude Mbakamanga, je vous dis au nom de tous, merci de nous avoir suivis.